Donc, rebonjour à vous toutes et à vous tous. Heureux de vivre avec vous ce temps de retraite de cette semaine. De retrouver ensemble dans ce temps pascal, le moment de l'année où on fait retraite marque aussi notre disponibilité du cœur et dans le temps pascal. Cette disponibilité est grande puisque nous venons d'entrer dans célébrer cette grande semaine sainte et puis le message de Pâques, la victoire du ressuscité. Et une retraite, c'est peut-être aussi un moment où on accueille ce ressuscité qui vient renouveler en nous cet être de fils, de fille de Dieu que nous sommes, d'enfants de Dieu. Nous venons de le fêter comme celui qui a vaincu la mort et toutes les formes de péché, et qui, par le don de l'Esprit, poursuit cette œuvre. Comme nous le dit la prière eucharistique numéro 4, il achève, l'Esprit achève en nous toute sanctification. C'est dire que tout au long de ces jours, je vous inviterai, je vous invite à ouvrir vos cœurs, nos cœurs à ce que l'Esprit Saint veut nous donner pendant cette semaine et veut vous donner à chacun et à chacune d'entre vous en ce moment de votre vie, en cette étape de votre vie, dans votre situation, dans vos engagements, dans le vieillissement du corps, dans les joies, dans les épreuves, dans les questions que vous pouvez porter. Il est bien évident que le véritable prédicateur de la retraite, ce n'est pas celui qui est en train de vous parler, mais c'est celui qui va parler au fond de votre cœur et qui est l'Esprit Saint. C'est lui le véritable prédicateur, c'est lui qui va vous rejoindre, qui veut vous rejoindre et que vous voulez d'ailleurs retrouver, écouter. C'est ce lien avec notre Dieu qui se réalise par l'Esprit Saint et son travail dans nos cœurs. Il nous est donné pour éclairer notre désir de Dieu, pour ajuster notre désir de Dieu, pour le purifier, peut-être pour l'apaiser si nous sommes dans une période de troubles ou de questions. L'Esprit Saint est ce Dieu qui nous désire et qui nous cherche, sa présence en nous et qui vient ajuster notre désir de Dieu. Alors je vous invite donc à le prier au tout début de cette retraite. Et je vous propose de le faire avec les mots de la séquence de Pentecôte. Vous pourrez reprendre au long de cette semaine et que nous reprendrons à tel ou tel moment. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien à aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé. Baigne ce qui est aride. Guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide. Réchauffe ce qui est froid. Rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés, Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. De bon ouvert à cette présence de l'Esprit en nous, à ces lumières, à ces signes qui sont un tout premier, ceux de la paix, ceux de la joie. Le ressuscité dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Il nous donne sa joie. Et nous vivons cette retraite en 2026, pas 2025, ni 2015, ni 2030, mais c'est 26. C'est-à-dire dans le contexte d'aujourd'hui, et nous sommes marqués plus ou moins par les signes de mort et d'inquiétude qui sont là présents avec ces guerres entre les États-Unis, Israël et l'Iran, celle entre Israël et le Hezbollah au Liban. Et nous savons, et nous entendons, et nous voyons les répercussions sur les populations palestiniennes de ces conflits insensés. Et puis la guerre encore entre la Russie et l'Ukraine, dont on parle moins, parce que l'autre a effacé celle-ci. Je ne parle là que de celles qui sont présentées ces temps-ci chez nous, en Occident. Et nous n'oublions pas les autres conflits du monde, en Afrique, au Soudan, dans le nord de la République démocratique du Congo, au Kivu. La situation très très compliquée d'Haïti, de Birmanie. Et d'ailleurs encore, et pour tel ou tel d'entre vous qui avait été dans des missions ou qui venait de pays lointains, ces signes de mort et d'inquiétude sont bien présents à votre esprit. Et vous êtes attentive à ce qui se passe dans les endroits où vous avez des communautés, ou bien d'où vous êtes originaire. Et puis, il y a en ce même temps que nous vivons, tellement de signes d'espérance aussi, que nous voyons, à travers le visage des humanitaires, au visage multiple. Quand on voit, malheureusement, nous regardons assis dans nos fauteuils ou sur nos chaises. Mais ces drames, ces bombes qui tombent, ici et là, nous voyons aussi en même temps tous les humanitaires qui s'engagent, qui ont rejoint des associations ou qui vivent la solidarité au quotidien et qui rendent le visage de mort traversé de lumière et de fraternité, de solidarité. Nous voyons les artisans de paix à travers selon le métier et la diplomatie, le dialogue, mais qui travaillent dans des conditions tellement fluctuantes suivant l'humeur des grands dirigeants. Mais nous voyons plein de gens de bonne volonté. Et ici chez nous, en France, dans notre Église de France, nous nous réjouissons avec la réalité de ces nombreux adultes, jeunes ou plus âgés, qui ont frappé à la porte de l'Église encore, à la recherche du sens de leur vie. Parce que le visage de Dieu ou le désir de connaître le Christ les a interpellés. Ils veulent en savoir un peu plus. Peut-être parmi vous, certains ou certaines avaient été engagés auprès de catéchumènes et avaient entendu ces récits de parcours imprévisibles où l'esprit est allé rejoindre le cœur d'un tel, d'une telle, pour révéler l'amour de Dieu, la présence de Dieu, autre chose que le train-train quotidien. Et moi-même, dans mon ministère actuel à Saint-Jérôme, à Toulouse, il n'est pas rare que viennent à l'accueil ou se confesser tel ou tel qui demande les mois qui se sont passés. Plutôt jeune, cela, je veux être baptisé. Je voudrais en savoir un peu plus, qu'est-ce que je dois faire. Alors on commence un échange et puis on oriente vers un lieu où ils seront accompagnés. Ou bien une semaine, ça m'est arrivé, le contraste était intéressant, parce que c'était vraiment tellement différent d'un militaire qui disait, ben voilà, j'en ai assez. Je ne comprends plus ce que je vis. Alors je vais changer, je vais quitter l'armée, je vais, bon. Et pareil, après, un ingénieur. Ma vie n'a plus de sens. Ma vie n'a plus de sens. Et voilà, on est là. On est là avec cette réalité qui fort heureusement nous échappe, mais qui est le signe de cette œuvre de l'esprit aujourd'hui, en ce temps, et chez nous. Ou tel autre qui revient après 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans être venu se confesser, mais qui revient cette année. La semaine dernière, vendredi, samedi dernier. Voilà. Souvent, c'est après des blessures terribles, des chocs. Et on met à terre, hein, en quelque sorte. Avortement. Rupture familiale. Et on se reproche d'être indigne de Dieu. Et puis pour les fêtes, on remarque que il y a un peu plus de monde à des fêtes comme le mercredi des cendres, comme les rameaux, Pâques, Noël, surtout dans nos villes. Peut-être c'est pareil dans les zones rurales, mais dans nos villes, c'est net. On se rassemble dans les villes aujourd'hui. Ainsi va la vie, je dirais, ainsi va la vie. Il y a des vagues. Il y a des vagues. Et la vie des croyants est ainsi depuis le début. Il y a d'abord eu la vague timide de la joie qui n'arrivait pas. Qui n'arrivait pas à faire repartir la vague de la peur et de la déception et de la déroute après la mort de Jésus. Il a fallu que l'esprit travaille pour que la vague de l'espérance et de la foi retourne ces cœurs qui étaient démolis. Parce que ce qu'ils avaient attendu, c'était pas ça. C'était pas un Messie crucifié. C'était un Messie triomphant qu'ils attendaient. Il n'attendait pas de voir celui vers lequel il s'était mis en marche, être arrêté, mis en croix, moqué, rejeté, et ne rien faire. Et ne rien faire. Il aura fallu du temps pour comprendre que non, il ne faisait pas rien. Il faisait même l'essentiel. Il faisait le combat dans le cœur d'un homme contre la haine, contre la violence, contre la vengeance, contre le désespoir. Il menait ce combat, lui, pour toute l'humanité. Et avant d'être rentré dans cette foi, il fallait bien vérifier que celui qu'on nous disait, il était ressuscité, c'était bien le crucifié. Alors Thomas, comme nous le lisions hier, eh bien, il veut toucher les plaies. Il veut bien être sûr que celui qu'ont vu ses disciples, là, qui dit, nous avons vu le Seigneur, c'était bien celui qu'on avait vu crucifié quand même. C'était pas un autre. Il a fallu du temps. Et à nous aussi, il nous faut du temps. Et nous aussi, nous passons dans notre vie par des vagues qui se succèdent, des vagues joyeuses et des vagues douloureuses, des vagues de déception. On avait imaginé les choses autrement que ce que ça s'est passé pour nous. Dans notre santé, dans les événements, les nôtres ou ceux de ceux que nous aimons, ou de notre pays. Et on est bousculé par tout ça. Et c'est un peu ce chemin spirituel que nous ne cessons de faire, où l'œuvre de Dieu et le désir de Dieu qui nous dépassent, et celui que nous avons de Dieu et que nous imaginons et que nous avons bien cadré, eh bien, ne se correspondent pas. Et nous voyons et nous découvrons peu à peu que Dieu travaille notre cœur pour faire que le désir de Dieu que nous portons corresponde un peu au vrai Dieu et non pas à celui que nous nous fabriquons dans notre tête. Et nous risquons à des moments d'être comme Pierre qui entend Jésus lui dire: arrière Satan, tes pensées ne sont pas mes pensées, mais c'est celles des hommes. En nous, il y a des fois des révoltes ou des duretés qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent du vieil homme, de notre cœur humain. Dès que l'épreuve se présente, quelque forme qu'elle prenne, bien ça nous prend à l'envers. Et jusqu'au bout, ça nous prendra à l'envers. Et l'Esprit de Dieu vient retourner. Confiance. Allez, confiance. Relève-toi, marche. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'ils me suivent. Ça va bien de l'entendre quand on est en forme. On admire, on dit, on le chante. Mais si ça m'arrive à moi, dans l'étape de mon corps, nous qui vieillissons, quand nous observons que la sonorisation marche toujours plus mal parce que mes oreilles faiblissent, c'est la sono qui est mauvaise. C'est la sono qui est mauvaise. Et puis mon estomac, et puis enfin, tout le reste, quoi. Tout le reste. Ces chefs-d'œuvre en péril. Nous sommes des chefs-d'œuvre en péril, que voulez-vous? Mais non, on est en train de construire et de se dépouiller. De se dépouiller de tout ce à quoi nous. Et au fond de nous, il y a cette recherche spirituelle et ce travail de l'esprit qui vient nous préparer à la rencontre. Et puis quand on est dans l'activité, eh bien on peut être déçu par tel ou tel résultat ou tel conflit à vivre, enfin toutes ces duretés, enfin je manque pas dureté, mais toute cette réalité de la vie active, ça résiste. Ça résiste à. Et chacun veut prendre le dessus sur l'autre. Et on veut être le meilleur, etc. La plus grosse libération, c'est la libération de nous-mêmes. Nous-mêmes, nous nous enfermons tellement dans nos égos, nos orgueils et nos désirs que nous compliquons bien l'esprit. Voilà, nous sommes avec tout cela au début de cette retraite. Nous y entrons avec nous-mêmes, avec ce combat en nous entre le vieil homme qui résiste et celui qui nous fait renaître, qui est venu nous faire renaître, nous rendre un cœur de fils, un cœur de frères et sœurs, un cœur d'espérance, un cœur dépouillé, un cœur qui s'en remet à celui qui est le tout. Et nous sommes sur ce chemin de vie comme les disciples l'étaient, eux qui avaient pris la suite de la marche de Jésus. Et voilà, ils allaient, fallait qu'ils allaient passer eux aussi par ce même chemin. Et nous sommes un peu comme ces rencontres que l'Évangile nous rapporte. On pense, mettons, à la Samaritaine, au bord du puits de Jacob, et là on voit se rencontrer les deux soifs. La soif que Marie-Madeleine vient assouvir, pendant la Samaritaine vient assouvir en allant chercher de l'eau au puits. Et elle fait son travail de femme qui va au puits chercher l'eau, ceux qui sont à la maison. Et elle fait ça. Et puis il y a Jésus qui est là au bord du puits, fatigué par la route, et qui lui dit, donne-moi à boire. C'est Dieu qui nous redit à chacun de nous, donne-moi à boire. Pour que je puisse te donner mon eau vive, pour que tu te... ne penses pas qu'à ton eau à toi, mais que tu donnes à boire toi aussi aux autres, que tu sortes de ce qui t'enferme, du... Et voilà que dans ce geste où elle dialogue, se met à dialoguer avec un autre qu'elle-même, elle trouve le chemin de la vérité. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Ou encore Nicodème avec qui nous allons passer dans la liturgie 4 jours. En regardant ce chapitre troisième de Saint Jean, nous allons commencer tout à l'heure. Lui, il vient de nuit. Il vient de nuit, il n'a pas trop envie sûrement que ses collègues, des notables, le voient aller discuter avec Jésus. Donc il y va de nuit. Et peut-être qu'il y va de nuit parce que lui, il est dans la nuit. Et que quand on est dans la nuit, bien, ben, on a du mal à aller vers la lumière, à chasser les ténèbres de notre cœur. Nicodème. Je voulais m'arrêter aux deux dernières rencontres que l'évangéliste Luc rapporte. Avant que Jésus quitte Jéricho pour remonter à Jérusalem. Après, il n'y aura plus en Saint-Luc de rencontre personnelle. Il y aura le groupe des disciples, etc., qui fait le chemin. Il y a deux rencontres qu'il a mis là, à la fin du chapitre 18 et au début du chapitre 19. Nous les connaissons par cœur, ces rencontres. Celle avec Zachée. Zachée, lui, il veut voir Dieu, mais de loin. De loin, mais de haut. Oui, c'est vrai, il est petit, donc il faut qu'il monte sur un arbre, mais il n'a pas envie de le voir de trop près. Alors, il va un peu loin, mais en haut. Assez près pour voir quelque chose, mais assez loin pour ne pas être vu. Et Zachée va être bousculé parce qu'il n'avait jamais pensé que ce Jésus qu'il allait voir pour voir la tête qu'il avait allait se mettre à le regarder comme s'il le connaissait et à lui dire, mais Zachée, descends donc. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Nous connaissons la suite. Vite, il court, il descend. Il reçoit Jésus dans sa maison. Et voilà que par ce seul fait que Jésus les regardait, et qu'ils se sont laissés regarder par Jésus, et qu'ils sont descendus, et qu'ils n'aient plus le souci de lui-même d'être ridicule ou je ne sais pas quoi, voilà que la vérité se fait révéler. Si j'ai volé quelqu'un, ben je lui rembourserai 4 fois plus. Fou. Fou, subitement fou de lucidité. Il savait bien. Il trompait les uns et les autres. Il le savait bien. Fou à se mettre à décider comme l'amour seul peut faire de la folie. Il ne regarde plus de haut ou de loin. Ça y est, il a balayé sa propre maison et il accepte que celui qu'il a regardé dans les yeux lui permette d'y voir clair en lui. Voilà qu'il était désiré. Il était attendu. Il était regardé. Il accepte que Dieu le désire. D'abord, si Dieu le désire, est-ce que lui, il désire Dieu et faire la vérité en lui comme la Samaritaine du puits? On peut laisser résonner cette phrase de Jésus qui nous dit au début d'une retraite, il faut que je demeure chez toi. Il faut que je demeure chez toi. Jésus vous dit à chacun et chacun d'entre vous, il faut que je demeure chez toi. Peut-être nous avons l'impression qu'il est déjà là. Lui, en tout cas, vous dit, il faut que je demeure chez toi. Peut-être qu'il y a des zones de votre vie où il n'est pas encore rentré, où il n'a pas encore été accueilli. Il n'a pas été accueilli parce qu'il y avait telle blessure que je porte toujours, telle déception qui m'a marqué, que j'arrive pas à m'en débarrasser, tel conflit que j'ai pas avalé, que j'ai pas pardonné, telle déception. Allez, allez, allez. Abandonne tes postures. Quitte ton arbre. Descends. Quitte ton arbre où tu aimes te faire voir. Mais descends. Descends au plus profond de toi-même et là tu me trouveras. Quitte tes routines. Ces choses dans lesquelles tu t'es enfermé, où tu ne vois même plus que tu tournes en rond. Ose franchir la foule de ces choses qui te tiennent loin de moi, qui t'enferment sur toi-même. Allez, 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 reçois-moi, ouvre-moi, nom de Jésus. Laisse-moi remettre de l'ordre dans ta maison, il y a des pièces mal éclairées. Ne fuis pas la lumière, n'aie pas peur. Ose descendre de ce qui te retient trop loin. Écoute celui qui te dit son désir de demeurer chez toi. Un moment, et pas que pour un passage rapide, un moment. Fais taire en toi tout ce qui agite ton cœur. Oui, il veut demeurer chez nous. Il veut demeurer dans notre cœur, y être accueilli, reçu. Toujours pour de vrai, toujours de manière nouvelle. Et juste avant cette rencontre, À la fin du chapitre 18, il y a celle avec l'aveugle. L'aveugle qui n'a pas de nom chez Saint-Luc, mais on reconnaît Bartimée de Marc. Cet aveugle qui est au bord du chemin. Il entend le bruit et demande de quoi il s'agit. On lui dit, ben c'est le prophète Jésus de Nazareth. Alors il se met à crier, Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Faites-le venir, dit Jésus, on va le chercher. Allez, viens, réjouis-toi. Et on le conduit à Jésus et Jésus lui pose cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Comment Jésus peut poser cette question à un aveugle? Commence par lui rendre la vue. Et je me souviens dans la pastorale des Santons de Provence, parce que j'étais à Marseille et qu'elles sont toujours jouées au moment de Noël. À l'étable de Bethléem, défilent les Santons. Alors, il y a le ravi, il y a le gendarme, et chacun y va de sa demande. Et puis un peu derrière, tout seul, il y a l'aveugle. Il y a l'aveugle. Et Marie, au bout d'un moment, remarque l'aveugle. Et elle lui dit, ben, et toi, approche-toi. Et l'aveugle lui dit, oh, bonne mère, ne me dérangez pas, le petit. Ne me dérangez pas. Non, ne me dérangez pas. Allez. Ne lui dites qu'une chose, ben, qu'il me fasse ouvrir les yeux quand ça vaudra la peine de les ouvrir. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Je pense que c'est la question à se poser au début d'une retraite. Que veux-tu que je fasse pour toi pendant cette retraite? Est-ce que tu es venu avec un désir particulier? Est-ce que tu as un désir particulier? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi dans ton aujourd'hui? Dans ton aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Alors bien sûr, dans la diversité de chacune, chacun d'entre nous, ça va prendre une couleur personnelle. Mais peut-être ça vaut la peine de prendre du temps cet après-midi pour répondre à cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? D'abord, est-ce que vous attendez quelque chose ou rien? C'est déjà une première question. Est-ce que j'attends quelque chose de cette retraite de particulier? Quelle grâce j'aimerais recevoir? Quelle lumière j'attends? Quel cri j'ai envie de pousser vers le Seigneur? De quelle force j'ai besoin aujourd'hui? Sur quel chemin je voudrais être soutenu, je voudrais y voir plus clair, je voudrais réussir à passer cet obstacle, ce moment de ma vie. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle disponibilité intérieure nous avons pour accueillir ces lumières, ces grâces, ces joies, ces douceurs. Parce que lui aussi, il est là, le Seigneur, avec son désir de réveiller toujours plus, de réjouir toujours plus ce cœur de fils, de filles de Dieu que nous sommes, ce cœur de frères et sœurs que nous sommes, les uns à l'égard des autres, dans le concret. Et pas simplement sur le chemin, sur la réalité des grands événements mondiaux. Là, nous avons plein d'idées sur les grands événements mondiaux. Mais pour résoudre ce conflit en communauté entre moi et ma sœur, ce conflit en famille entre moi et mes enfants, là, on a moins d'idées. On est pris aux tripes, comme on dit. Que veux-tu que je fasse pour toi? La prière à l'Esprit Saint nous faisait dire il y a un instant, réveille en nous ce qui peut dormir, réchauffe ce qui a pu se refroidir, lave ce qui en nous peut avoir été souillé, baigne, remets un peu de l'eau du début, ce qui est devenu aride. Ma profession religieuse remonte loin. C'était la grande joie. Mais c'est devenu un peu aride maintenant. Allez, réveille, Seigneur, cette joie. Rappelle-la, moi, Seigneur, que j'ai... Allez. C'est le moment du début. Viens adoucir ce qui est devenu raide. Adoucis ce qui est raide. Redresse ce qui est tordu. Voilà, toutes ces choses qui sont l'œuvre de l'esprit en nous, au plus profond de nos cœurs. En ce temps pascal, on peut se dire dans quel tombeau je suis enfermé. Dans quelle partie de ma vie il y a quelque chose qui est enfermé. Il est là pour ouvrir mon tombeau, pour me faire sortir et pour me crier comme il l'a fait à Lazare, Lazare, sors. Ou bien comme il l'a fait pour Marie, qui le prenait pour le jardinier, tellement sa souffrance l'aveuglait. Marie, il prononça son nom. Et bien là, le Seigneur va prononcer votre nom à chacune, chacun d'entre vous, de nous. C'est lui qui nous rejoint et qui dit notre nom. Allez, descends vite, il faut que je demeure chez toi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ce premier entretien veut nous mettre devant l'enjeu d'une retraite et tout se passe en nous, entre nous et l'esprit qui vient nous rejoindre. Chaque jour, je vous proposerai une page, un passage d'évangile ou des actes des apôtres ou des lettres de saint Paul. Une page à méditer. On en méditera ensemble. Et puis je vous donnerai à la fin, chaque fois, un texte d'un auteur spirituel qui rejoint cette page d'évangile ou cette page du Nouveau Testament pour nous aider à prier. C'est pas nécessairement un thème comme on approfondit un thème. Non, c'est plutôt essayer de vous accompagner dans la prière personnelle, dans le temps de la méditation, le temps du cœur à cœur avec le Seigneur, où là, le Seigneur prépare notre cœur, l'ouvre pour recevoir. Et donc, ce soir déjà, je vous donne ce premier texte qu'on va regarder rapidement, puis chacune pourra le reprendre chez elle, à sa façon. Merci. Là, il y en a eu deux ou trois, non? Thank you.